Radio Capi. Oh, Capi. C'est l'heure du journal avec Pascal Masurica.
À la une ce midi, vive tension ce lundi à Mbujimayi. Des étudiants de l'UM et de l'IOM protestent notamment contre la mesure des tutelles portant organisation de la faculté de médecine par seulement 16 universités sur l'étendue de la RDC. En Ituri, 15 localités sur le tronçon Loya-Mambelenga sont vidées de leurs habitants. Constat fait par une délégation de la MONUSCO qui est en mission dans cette partie du territoire d'Irumu où les rebelles ougandais de l'ADEF sont actifs. Notre invité, c'est l'ancien coordonnateur de la cellule de visibilité des travaux réalisés dans le cadre du contrat sino-congolais. Jean-Marie Kassamba parle de l'évaluation à mi-parcours fait par des experts nationaux et internationaux. Madame, messieurs, bonjour. Vive tension ce lundi à l'est de la ville de Mbujimayi. Les étudiants de l'université de Mbujimayi et ceux de l'université officielle de la même ville sont dans les rues. Ceux de l'UM s'insurgent contre la décision du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire autorisant l'organisation de la faculté de médecine à seulement 16 universités dont une se trouve en Mbujimayi. Tandis que leurs collègues étudiants de l'université officielle n'approuve pas la date d'échéance de paiement des frais d'enrôlement à la session fixée par leur institution universitaire. Le récit d'Esther Ndalafina.
À l'université de Mbujimayi, les étudiants ont barricadé l'avenue qui mène à leur institution. Dans leur colère, ces étudiants ont jeté des pierres sur le bâtiment de l'université ainsi que sur les passants pour les empêcher d'emprunter cette route. Certains d'entre eux affirment qu'ils s'insurgent contre la décision du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire autorisant l'organisation de la faculté de médecine qu'à 16 universités et dont la leur n'est pas reprise sur la liste. Tandis qu'à l'université officielle de Mbujimayi, les étudiants s'insurgent contre la date de la fin de l'enrôlement de la première session fixée au 27 septembre prochain, conformément au calendrier académique. C'est ainsi qu'ils ont jeté des pierres sur le bâtiment de l'université, perturbant ainsi les cours. Tous ces étudiants se sont retrouvés au gouvernorat de province pour exprimer leur mécontentement. Sur place, quelques-uns ont semé les troubles pour forcer l'audience. La police les a dispersés à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles tirées en l'air. Dans leur fuite, deux ont été appréhendés et gardés au cachot de la mairie. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Capi.
Pendant ces temps à Beni, les membres du syndicat des enseignants du Congo et ceux des écoles conventionnées catholiques conditionnent la reprise des cours par l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils l'ont décidé au cours de leur assemblée générale tenue hier dimanche après-midi. Des précisions avec le secrétaire permanent de ce syndicat, Christophe Kanyamwe, s'est confié à Guylaine Kassassia.
Il n'y aura pas vraiment rentrée si les points suivants ne sont pas observés. Entre autres, nous avons parlé du paiement de tous les enseignants NUI. Vous allez vous rappeler que c'est à cause de vouloir aider l'État à chercher un couloir de vie pour les NUI que nos camarades directeurs ont été suspendus. Deuxièmement, nous avons parlé de la suppression des zones salariales. Troisièmement, on a parlé du paiement des trois paliers promis dans les différentes circulaires du secrétariat général de l'EPST autour de la gratuité. Et ensuite, nous avons parlé de la levée des suspensions des chefs d'établissement. Chacun s'est déjà justifié et jusqu'ici, aucun d'eux n'est rétabli dans ces droits. On a parlé de la révision de la circulaire de Madame le ministre provincial de l'EPST Nord-Kivu qui dit que l'argent doit venir de l'école secondaire pour aller payer les NI à l'école primaire. C'est une façon de se cacher derrière la gratuité puisque le même parent qui a payé trop au secondaire, c'est lui qu'on demande maintenant d'aller de ses frais, qu'on prenne les frais pour payer l'enseignant au primaire.
Dans un autre registre, en Ituri, environ 15 localités sur le tronçon Loya-Mambelenga, dénommées axes de la mort, sont vidées de leurs habitants. Seuls les militaires des FARDC et des épaves des véhicules brûlés sont visibles dans certaines entités. Cette situation inquiète les usagers de la route. Constat fait par une délégation de la MONUSCO qui est en mission dans cette partie du territoire du Rumu où les rebelles ougandais de la DEF sont encore actifs. Le reportage d'Isaac Remoyope est rendu ici par Jean-Claude Lokidile.
Personne n'ose engager sans escorte sur cette route qui est inhabitée sur une distance d'environ 50 km. Tous les habitants des localités de Loya, Sokotano, Mafifi, Sessa, Ofai, Ido, Ndimu, jusqu'à Mambelenga ont abandonné leur maison et activité la suite des exactions des rebelles des ADF dont les empreintes sont visibles dans chaque village, maison ou véhicule incendié, boutique pillée. À chaque kilomètre, on voit l'ombre de la mort, sauf à certains endroits où il y a la présence des FRDC. Toutes les victimes et les usagers de route souhaite le retour de la paix dans cette région. Il plaide pour le lancement rapide des opérations militaires en vue de mettre fin aux scènes de violence perpétrées par ce groupe armé des ADF qui fait parler de lui chaque semaine. Du côté de l'armée, on affirme que les FARDC traquent ces rebelles en entendant les opérations de grande envergure. En entendant aussi, c'est grâce aux escortes conjointes de la MONUSCO et des FARDC que les véhicules civils peuvent emprunter cet axe devenu extrêmement dangereux, à la plus grande satisfaction des populations des deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Lekidile, Radio Okapi.
Non loin de là, au Nord Kivu, les activités économiques sont paralysées depuis ce lundi matin dans la ville de Butembo. La société civile a appelé les habitants de la zone à observer une journée sans activité en solidarité avec les membres des communautés locales qui ont perdu les leurs dans différentes attaques des rebelles ougandais de l'ADF dans cette partie du pays. À Butembo, c'est une correspondance de Sadiki Aboubakar.
Il s'agit d'une journée dite de deuil, décrétée par la coordination de la société civile urbaine. D'après Van Germé Katiwa, son premier vice-président, il s'agit d'une façon de compatir avec les familles de toutes les victimes de massacres perpétrés par les rebelles dans la région. La journée est également dite de réflexion, car selon les organisateurs, tous les acteurs sociaux sont appelés à réfléchir sur des actions à mener en vue de barrer la route à l'ennemi. Depuis le matin, le mot d'ordre de la société civile est suivi dans la ville. Toutes les grandes activités commerciales sont restées paralysées. Quelques petits commerçants seulement, en majorité des marchands des produits vivriers, ont ouvert au marché central. Le long du boulevard Président de la République, presque toutes les portes des magasins et des galeries de commerce n'ont pas ouvert. Les banques ont juste fermé leurs portes principales, laissant ouvertes les petites portes pour recevoir les rares clients qui se présentent. Bien que timide, la circulation est restée normale dans la ville. La même situation a été observée dans les rues secondaires et quartiers périphériques du centre commercial, où tout fonctionne comme d'habitude. Jusque midi, aucun incident n'a été signalé. Butembo, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Et puis Justicia Asbel, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Lubumbashi, plaide pour que justice soit rendue aux femmes qui avaient été victimes de viols dans la prison de la Kasapa. C'était au mois de septembre 2020 lors d'une tentative d'évasion. À cette occasion, plusieurs dégâts matériels et humains avaient été enregistrés. Des précisions avec le président de cette structure, Timothée Mbuya, est au micro de Jean Gandou.
Une année déjà, jour pour jour, depuis que survenaient les émeutes à la prison centrale de la Kasapa, émeutes commanditées par les détenus eux-mêmes de l'intérieur, pendant 3 jours, les prisonniers ont été abandonnés à leur propre triste sort. De ces émeutes, des dégâts humains et matériels importants ont été enregistrés, c'est notamment la mort de plusieurs personnes, les viols de plusieurs dizaines de femmes, l'incendie des bureaux administratifs, y compris les dépôts d'alimentation ainsi que les dispensaires. Jusqu'à ce jour, aucune enquête sérieuse n'a été menée en dehors d'une audition sommaire commencée par les parquets près les tribunaux des grandes instances de Lubumbashi. Justice regrette donc qu'une année après, les victimes ne puissent pas avoir droit à la justice et que le bourreau continue à courir les villes. Justice demande que des mesures soient prise urgemment par le gouvernement national afin d'aider à la reconstitution des dossiers physiques pour permettre de désengorger la prison, car à ce jour, plusieurs détenus sont en situation d'irrégularité.
Reconstruire après la crise, tel est le titre d'un nouvel ouvrage publié par le professeur Grégoire Ngalamoumetieboué. L'ouvrage de 258 pages a été présenté ce week-end à Kananga. Ce ministre provincial honoraire du plan et directeur de cabinet de l'ancien gouverneur du Kasaï central jette un regard sur le conflit Kamouina-Nsapu qui a secoué la région et la dynamique de relèvement post-conflit. Il affirme que cette crise de 2016 à 2017, née de la gestion du pouvoir coutumier, doit interpeller les acteurs impliqués. Cet enseignant des universités et chercheur propose 3 chantiers prioritaires pour faire avancer le Kasaï central qu'il appelle triple nexus. Il le dit à François Kadima.
3 chantiers prioritaires que nous devons construire et placer la province sur la voie de son émergence. C'est notamment le chantier humain consacré au changement de mentalité, au changement de comportement. Le deuxième chantier, il est le chantier des infrastructures que nous devons moderniser, que nous devons transformer. Les routes prioritaires, la route Kalambambouji, la route nationale numéro 1, les routes de desserte agricole. Nous avons les infrastructures énergétiques, notamment la centrale de Katende qu'il faudra terminer pour produire de l'énergie fiable au niveau de la province. Le dernier chantier qui est prioritaire, c'est notamment l'amélioration de la gouvernance et du leadership au niveau de la province pour remobiliser l'ensemble de la population, remettre la population au travail dans une dynamique positive, rassembler toutes les énergies positives pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État, consolider la paix, mais en même temps lancer la province dans une dynamique de développement durable.
L'actualité, c'est aussi la poursuite ce lundi à Uvira au Sud Kivu de la 4e édition du festival Amani ou Salamana Maendeleo à l'Institut Zawa Diara ici. Plusieurs activités impliquant les jeunes venus de Goma, de Bukavu et de Fizi y sont organisées, notamment le sport entre la police et les jeunes, la musique, le poème et les conférences débats. Des précisions avec le coordonnateur de l'ONG CGDR, initiateur des assises d'Uvira, Pelelo Ami. Ici est au micro de Fiston Goma Mayabala.
À la jeunesse, le message est de dire aux jeunes que vraiment il faut s'approprier toutes les initiatives qui cadrent avec la promotion de la paix et la cohabitation pacifique. Il faut se débarrasser avec tous les politiciens, les hommes politiques qui veulent nous diviser, qui veulent tirer leurs ficelles en leur faveur, et nous resterons toujours victimes de tout ce qui se passe. Nous voulons appeler la jeunesse vraiment de rester soudée, de ne plus regarder celui-ci, il est de quelle tribu pour être ensemble. Et surtout, nous appelons à la jeunesse de voir comment même se marier. Parce que aussi, il y a des coutumes qui ne veulent pas se marier avec d'autres communautés qui est à la base de diviser tout comme ça. De rester soudés et surtout la cohabitation, que ce soit vraiment un mot qu'il faut développer dans l'air quotidien. Et à la communauté locale qu'internationale, de voir comment appuyer les initiatives des jeunes. Parce qu'à Uvira, il n'y a pas de centre des jeunes, il n'y a pas de maison d'exposition des jeunes qui peuvent permettre aux jeunes au moins d'exposer leurs œuvres et voir comment gagner leur vie à travers leurs potentialités.
Faisons maintenant un détour par le Haut-Ouélé où la société civile du Congo pour le territoire de Wamba s'oppose à l'exploitation artisanale de l'or par des Chinois qui s'y trouvent depuis environ un mois. Dans un communiqué publié ce week-end, cette structure citoyenne interpelle le président de la République, Félix Tshisekedi, et le ministre des Mines pour qu'ils fassent respecter l'interdiction de l'exploitation minière artisanale par des étrangers. Le point de la situation avec vous, Jacques Mokonkole.
La société civile explique que l'article 19 bis et 111 du code minier congolais interdisent l'exploitation artisanale des minerais à tous les étrangers. Pour Patrick Ambaïso, président de cette structure citoyenne, le séjour des Chinois à Wamba est illégal. En réaction, le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité déclare que leur présence à Wamba a pour objectif notamment d'appuyer les coopératives minières locales. Crispin Alibou.
Nous sommes en train de créer de plus en plus de ZEA pour permettre aux Congolais de se recouvrir. À coopérative. Et voilà pour que les Chinois qui viennent avec des matériels l'intègrent les coopératives congolaises et ils essaient d'accompagner les Congolais. Et maintenant, les gens, ils interprètent comme des Chinois venaient travailler demain, boiter de l'or illégalement.
La société civile croit plutôt le contraire. Les Chinois sont là pour exploiter à leur propre compte. Patrick Ambaïso.
Ce n'est pas pour accompagner les orpailleurs qui sont sur place. Puisque si tel est le cas, on devrait déjà appeler tous ces orpailleurs au niveau de la chefferie pour échanger avec eux. Mais même les chefs de même les chefs de groupement, même les chefs de localité. Les dossiers, les projets passent au-dessus de leur tête. Ils ne connaissent rien.
La société civile dit avoir écrit au ministre des Mines pour le retrait des sujets chinois du territoire de Wamba. Cependant, le ministre provincial en charge de l'intérieur espère le développement de cette entité grâce notamment à l'apport des Chinois. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Rwanda, le verdict dans l'affaire Paul Rusesabagina est prévu ce lundi. Cet opposant à Paul Kagame, chef de l'État, devenu célèbre pour avoir sauvé plus des milliers de personnes lors du génocide rwandais, est jugé à Kigali, la capitale, pour terrorisme depuis le mois de février dernier. Il encourt la prison à perpétuité. Poursuite ce lundi en Guinée des concertations nationales initiées par les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé pour préparer la transition. Maître Emmanuel Bamba, président de la Ligue des droits de l'homme de la Guinée, qui a participé à ces échanges, affirme à la presse que la lutte contre l'impunité doit être une priorité des nouvelles autorités du pays. Et puis au Burundi, un groupe rebelle a revendiqué une attaque menée dans la nuit de samedi à ce dimanche contre l'aéroport international de Bujumbura sans faire des dégâts, selon des sources jointes par l'AFP. Des tirs de mortiers ont été entendus la veille du départ du président Évariste Ndayishimiye pour New York, où il doit participer cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur leur compte Twitter, les dirigeants du mouvement de résistance pour un état d'endroit à Tabara confirment avoir affronté les troupes de l'armée régulière qui protègent l'aéroport.
L'invité.
Notre invité, c'est l'ancien coordonnateur de la cellule des visibilités des travaux réalisés dans le cadre du contrat sino-congolais. Jean-Marie Kassamba salue la décision du chef de l'État d'évaluer ce contrat sino-congolais. Il parle d'une évaluation à mi-parcours des experts nationaux et internationaux. Il s'entretient avec Jirel Ungembo.
Monsieur Kassamba, bonjour.
Bonjour.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, exige dans l'immédiat l'évaluation du contrat sino-congolais dans son volet infrastructure. Vous étiez dans l'équipe qui a géré en son temps ces projets. Alors comment aviez-vous accueilli cette décision ?
Bon, c'est une bonne chose de faire une évaluation de tout projet, tout dossier. Encore faut-il savoir, cette évaluation s'est faite sur le plan du contrat lui-même, sur le plan des infrastructures déjà acquises, sur le plan du volet financier de ce qui a été prédestiné à ces infrastructures. Donc, une évaluation est toujours une très bonne chose, mais il faut savoir les conséquences, qu'est-ce que cela va comporter après.
Est-ce que le montant de 2,8 ou même près de 3 milliards de dollars que le gouvernement avait alloué pour ce projet a-t-il été utilisé en bon escient ? Combien de routes ont été construites ?
Suffisamment. Suffisamment de routes, suffisamment d'infrastructures. D'ailleurs, je vous informe qu'il reste encore aujourd'hui des fonds disponibles dans ces cas de ce contrat que la RDC n'a pas encore utilisé. Donc ce qui veut dire que s'il y a des projets d'investissement, des projets d'infrastructure qui sont orientés vers ce partenariat avec la Chine, effectivement la RDC sortira gagnant.
Alors selon les rapports de l'ONG AfriWatch, publié en 2019, ces méga contrats chinois, n'a pas fait ce que la population attendait. C'est-à-dire, en termes de réalisation, les réalisations ne sont pas à la hauteur des promesses.
Bien au contraire. Je vous rappelle qu'avant ces contrats, ils n'existaient pas, même avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des projets d'infrastructure de grande envergure.
Le même rapport de l'ONG AfriWatch parle de, jusqu'à fin 2017, le Congo n'a remboursé à travers l'entreprise minière Sicomine qu'un peu plus de 83,7 millions de dollars. La cause est que la Sicomine n'a pas généré assez de revenus pour permettre à la RDC de rembourser sa dette. En 3 ans, elle n'a produit que 95 000 tonnes de cuivre, alors que les prévisions étaient de 800 000 tonnes. Alors il y a crainte des remboursements ou des surendettements pour la RDC ?
Non, bien au contraire. D'ailleurs, je vous rappelle que la Chine a offert à la RDC 2 engins avant même que la Chine puisse collecter un seul minerai de notre sol. Sicomine, c'est un projet dans lequel il y a une part importante des intérêts de la RDC, et Sicomine est plus viable que beaucoup d'entreprises. Et puis il faut aussi dire que ce partenariat est inscrit dans la durée. Ce n'est pas un contrat de 10 ans, de 20 ans, c'est dans la durée, pour permettre un travail, on va dire, serein, et avec beaucoup plus de stabilité dans la coopération.
Mais la cellule des communications, ou si vous voulez, de la visibilité des 5 chantiers que vous avez gérés, a consommé pratiquement, semble-t-il, un quart de cet argent qui a été alloué.
Jamais, rien du tout. D'ailleurs, je vous informe que moi, je ne suis que consultant. Je n'avais pas un mandat, on va dire, officiel, une nomination officielle, une ordonnance officielle. Je suis, jusqu'à aujourd'hui, consultant.
Alors, pensez-vous que le bureau qui était chargé du suivi de ce projet, des bureaux qui a été géré jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, par l'actuel sénateur Moïse Ekanga, sera le seul qui peut faire cette évaluation ? Ou faut-il recourir à une autre expertise indépendante ou carrément la confier à l'IGF ?
Non, je pense que ces bureaux travaillés avec le gouvernement de la RDC, avec les infrastructures de la RDC, étaient peut-être sous l'œil du cabinet du président de la République, comme il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui travaillent sous l'œil du président de la République. Et donc, dans un pays comme le nôtre, il faut toujours avoir de services comme l'IGF, comme d'autres, qui dépendent du président de la République pour une bonne réactivité des choses.
Est-ce que vous ne redoutez rien? Le chef de l'État qui avait dit n'allait pas fouiner dans le passé, et le fait de le faire maintenant, il y a intention de nuire.
Non, moi je pense que dans notre pays, il faut qu'on ait la culture de la continuité de l'État, la culture d'ajouter sur ce qui a été fait. Lorsqu'on remet en cause à chaque fois des choses qui ont été faites, on passe beaucoup plus de temps dans les tergiversations. Bien au contraire, il faut permettre que chaque génération pose des actes, celle d'après continue à poser des actes. Le président de la République avait effectivement dit qu'il n'allait pas fouiner dans le passé pour essayer de construire encore davantage.
Monsieur Jean-Marie Kassamba, merci d'avoir bien voulu nous accorder cette interview.
Merci à vous.
Il est 12h20 à Kinshasa. C'était l'invité de Radio Okapi, l'ancien coordonnateur de la cellule de visibilité des travaux réalisés dans le cadre du contrat sino-congolais. Jean-Marie Kassamba était interviewé par J.R. Lungembo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Pelekipe Elamondo qui l'a supervisé sous la coordination de Noëlla Luzitu Kabambi. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.